Les municipales 2008,
je m'y attacherai de toutes mes forces.
Et sont celles des Marseillaises et des Marseillais.
Voici donc le plateau réuni pour vous
à Marseille.
Municipal 2008 à Marseille.
Qui sera le prochain maire de Marseille ? Il faudra attendre le verdict des urnes pour le savoir, mais d'ici là, on peut essayer de répondre à la question « Qui sont les électeurs ?». C'est l'objet de cette quatrième émission spéciale dans la thématique municipale 2008 que vous propose la rédaction de Grenouille. Au 10 janvier 2008, à la clôture des inscriptions sur les listes électorales, 480 132 Marseillais étaient dûment enregistrés, un chiffre en légère mais constante augmentation dans tous les secteurs de la ville, selon la préfecture qui nous a communiqué ce chiffre et quelques rares autres. Difficile en effet, pendant cette période électorale, d'obtenir un éclairage des données démographiques par ceux qui les collectent et les publient, pour cause de devoirs de réserve des fonctionnaires en fonction. Alors, nous avons proposé à Cesare Mattina, maître de conférence en sociologie à l'Université d'Aix-Marseille, de venir porter un éclairage sociologique sur la composition et l'évolution du corps électoral. Qui sont les nouveaux Marseillais, fraîchement installés dans la ville ? Cécile Billon, auditrice de Radio Grenouille, est venue nous aider à répondre à cette question. Elle a rencontré les responsables de l'association Marseille Accueil. Enfin, nous avons recueilli le témoignage de Walid Tebaï, membre de l'association Agir pour la citoyenneté, qui mène une action de terrain dans les quartiers de Marseille pour lutter contre l'abstention. Tout au long de cette émission, et en forme de virgule sonore, on entendra aussi quelques réflexions d'électeurs glanées à l'occasion de rencontres et meetings par Renaud Mangel. Tout de suite, on écoute Cesare Mattina, sociologue. Cesare Mattina, bonjour.
Bonjour.
On va essayer ensemble de savoir qui sont les électeurs à Marseille, mais peut-être avant de parler des électeurs, on va essayer de savoir qui sont les Marseillais. En termes de démographie, après une période où la ville s'est un peu dépeuplée, elle est passée d'un million d'habitants, je crois aujourd'hui autour de 800 000, on a l'impression qu'une certaine stabilité est aujourd'hui de mise à propos de la population marseillaise. Alors est-ce que c'est effectivement le cas ?
Oui, effectivement, il y a eu une baisse, comme vous disiez, d'habitants jusqu'en 1990. Entre 1975 et 1990, on est passé de 920 000 habitants, c'était le pic en 1975, jusqu'à 800 000 habitants. Et il y a eu effectivement une certaine stabilité qui se montre encore aujourd'hui, parce qu'on est, paraît-il, remonté un tout petit peu dans les toutes dernières années, c'est-à-dire à partir de 2000-2001, autour des 826 000 habitants. Ça, c'est les dernières statistiques de l'INSEE, faites non pas sur la base de recensements précis, mais sur la base d'estimations qui sont désormais effectuées chaque année. Donc, il y a une petite reprise, mais on peut dire qu'en gros, depuis 1990, l'avant-dernier recensement, il y a une certaine continuité finalement de la population, malgré un certain nombre d'assertions, d'affirmations de la mairie, tendant à dire qu'il y a une augmentation nette des habitants. En fait, déjà celle-là, elle doit être soumise à vérification, et en plus, à la limite, elle est très récente.
Au sein de la ville, est-ce qu'on observe des mouvements de population qui seraient, par exemple, la conséquence du fait que certains quartiers se développeraient particulièrement ou que d'autres seraient plutôt en récession ? Et est-ce que, peut-être la question qui est parallèle à celle-là, est-ce qu'on a l'impression qu'il y a une influence entre l'évolution urbanistique de Marseille et son évolution politique ?
Déjà, il est difficile d'estimer précisément ces mouvements de population. Il faudrait vraiment voir dans le détail les données de l'INSEE. Donc, je renvoie éventuellement les auditeurs à aller voir toutes les dernières statistiques de l'INSEE qui sont sur le site de l'INSEE. Mais en gros, on peut dire que dans les derniers 6 ans, il y a une reprise un peu dans tous les quartiers de la ville, sauf dans le 10e arrondissement, où là, il y a une baisse, plutôt dans les quartiers de la Capelette. Par ailleurs, il y a une augmentation assez, assez soutenue, un peu dans tous les quartiers, en particulier dans le 2e et 3e arrondissement et dans certains quartiers du nord-est, nord-nord-est de Marseille.
À propos justement de ces quartiers des 2e et 3e arrondissements, est-ce qu'on peut parler de gentrification à leur égard? C'est-à-dire, est-ce que les politiques de réhabilitation qui ont été mises en œuvre aboutissent aujourd'hui à un renouvellement de leur population qui amène des gens issus de catégories socio-professionnelles plus élevées que ce qu'elles n'étaient autrefois? Et est-ce que ça pourrait influencer le comportement politique à l'intérieur de ces quartiers?
Sur ça aussi, on n'a pas complètement tous les éléments. On n'a pas tous les éléments pour pouvoir effectivement comprendre toutes ces mutations-là. Hein. Et dans le 2e et 3e arrondissement, il y a eu des opérations d'aménagement importantes, notamment autour du périmètre euro-méditerranéen, autour de la rue de la République. Il y a au moins une volonté de transformation des couches sociales du centre-ville qui a commencé déjà avant, autour du quartier de Belzunce, du Panier, qui continue dans cette direction-là, c'est-à-dire rue de la République, Joliette et les quartiers avoisinants. C'est encore à mon avis, un peu trop tôt. Il faudrait voir le recensement de cette année qui va être rendu public plutôt en 2009 pour avoir plus d'éléments précis. Du point de vue de la stratégie politique des candidats par rapport à ces transformations urbaines, on note quand même quelque chose d'assez important. Jean-Noël Guérini, actuel candidat de la gauche et du Parti Socialiste à Marseille, se déplace, n'est plus le tête de liste dans le 2e et 3e arrondissement, là où il était, mais il va dans le 4e et 5e arrondissement, dit-il, pour des questions de stratégie électorale par rapport au fait de devoir battre la droite dans des quartiers qui feraient basculer toute la ville à gauche. Mais probablement, il y a plus que ça. Il y a aussi la considération que ces quartiers sont en train de changer très fortement et qu'une sociologie, disons, plus proche de la gauche ou de l'électorat du président du Conseil général sont peut-être en train de partir ou ne sont plus là et qu'il y a effectivement un changement de population. Je ne sais pas si on peut parler par contre de gentrification si on en est jusque-là. Hein. Pour l'instant, on ne peut pas tout en dire à ce propos-là.
C'était en tout cas très original à Marseille que le centre-ville soit occupé par des classes populaires. Presque partout ailleurs, dans les grandes villes et les très grandes villes, le centre-ville est plutôt l'apanage de catégories supérieures. Et les classes populaires sont invitées plutôt à se déplacer dans les périphéries. C'est donc peut-être le signe que Marseille, d'un point de vue urbanistique, se normalise.
Peut-être on est dans une phase de normalisation. Effectivement, avec d'autres villes en Europe, il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs. Hein. Des villes comme Naples, la ville d'où je viens d'ailleurs, des villes comme Palerme en Sicile, peut-être Barcelone et encore le processus de gentrification a avancé aussi à Barcelone, et quelques peu d'autres villes. Marseille était une ville avec un centre-ville encore populaire. Et peut-être ça l'est encore aujourd'hui. Mais effectivement, les processus, il avance. Et un certain nombre de populations de classe populaire commencent peut-être à être, on ne peut pas dire virées, mais en tout cas à s'éloigner du centre-ville parce qu'ils commencent à avoir du mal, notamment à s'y loger.
Marseille, ville populaire, justement, on vient de l'évoquer. Est-ce qu'à votre avis, Cesare Matina, c'est plutôt un cliché, c'est une évidence ou est-ce que c'est un lieu commun?
Si on s'en tient aux données effectivement de l'INSEE en ce qui concerne les revenus pro capité, effectivement, Marseille est une ville plutôt populaire par rapport à d'autres villes française par rapport à Lyon, par rapport à Paris, et aussi dans le panorama européen. Tout ce qui est, notamment les données concernant les RMistes, par exemple, montrent aussi que Marseille est une ville plutôt populaire. Cela dit, quand on dit populaire, comme on le voit de plus en plus, ça ne veut pas dire forcément à gauche. Et il y a de plus en plus de cas de catégories populaires qui commencent à voter, qui ont toujours voté à droite, qui commencent de plus en plus à voter à droite, voire à l'extrême droite pour certains cas. Donc, je dirais, l'équivalence catégorie populaire vote à gauche ne fonctionne pas forcément complètement. Par contre, si on regarde la géographie générale, on s'aperçoit encore qu'il y a des continuités. C'est-à-dire que, en tout cas, les quartiers au nord de la ville, 15e et 16e, 13e et 14e, continuent, que ce soit aux élections présidentielles ou aux élections locales, à voter plutôt à gauche qu'à droite. Donc il faut raisonner souvent à plusieurs échelles. Il faut d'abord regarder une échelle plus grande au niveau de toute la ville tout entière. Et après, il faut descendre dans des quartiers, voir au niveau des bureaux de vote, pour pouvoir effectivement croiser des données.
Comment les différents partis politiques jouent-ils justement la carte de cet électorat populaire, j'imagine, assez différemment, selon que ce sont des partis de gauche ou de droite? Le clientélisme contre le populisme? Ou est-ce que c'est un peu réducteur de poser ça comme ça?
Alors, en ce qui concerne le clientélisme, la volonté, disons, de la part des élus de se construire des clientèles politiques, parce que c'est par là aussi que passe l'élection, il n'y a aucune différence entre la droite et la gauche. Là, je peux être formel. Il y a des machines politiques en place qui cherchent, dans un contexte de plus en plus déidéologisé, à recueillir des voix. Donc les stratégies de clientèle politique sont là et sont partagées tant par la droite que par la gauche. Sous le registre populaire, il y a effectivement l'actuel maire de Marseille, il insiste là-dessus, dans son discours. Ce n'est pas pour autant du populisme, qui a plutôt un côté démagogique et assez péjoratif. J'irai pas jusque-là. Là, ça joue plutôt sur un côté communication politique, je veux dire. Après, l'autre côté, c'est toute la mise en place d'une politique aujourd'hui, avec un terme très à la mode, qui est une politique de proximité, qui est celle de montrer que les élus sont proches des citoyens, qui sont dans les quartiers, qui sont présents, qui font du terrain, avec toutes ces territoriques, de la proximité du terrain, etc., qui n'est pas forcément du populisme, mais qui est probablement autre chose, et qui est probablement une manière, si vous voulez, de suppléer un manque d'âme dans la démocratie représentative actuelle. Une grande difficulté des élus de se faire représenter correctement et du coup d'être proche des citoyens. Ils se sont éloignés, ils se rapprochent. D'où la volonté d'afficher cette proximité. Donc avec le clientélisme, ça va, on n'est pas très loin, parce que on est dans la continuation, si vous voulez, du métier d'élu, en quelque sorte. En étant proche, on reçoit les gens dans les permanences électorales, on leur fait des promesses, on va leur demander qu'est-ce qu'ils cherchent, c'est le cas dans les campagnes électorales, quand il suffit d'aller voir les élus quand ils font la tournée à la fois des quartiers ou des commerces. Souvent, ils s'adressent aux commerçants ou aux citoyens en leur demandant de quoi ils ont besoin. Ce qui est quand même assez nouveau, quelque part, parce que auparavant, ils avaient plutôt, eux, une proposition à faire, plutôt que des choses à attendre en demande de la part des citoyens.
We'll be right back. Marseille, ville d'idéaux, ou bien peut-être Marseille, ville de réseau. Comment est-ce que le corps électoral marseillais adhère au grand courant de pensée, au grand courant d'idées nationaux ou internationaux? Ou bien est-ce qu'au contraire, Marseille est très particulière de ce point de vue-là, très pragmatique, et s'occupe avant tout de sa praxis politique interne?
Vous savez, on ne peut pas séparer, à mon sens, les idéaux et le côté pragmatique. Hein. Les choses sont complètement imbriquées. Et en même temps qu'on peut voter localement sur des enjeux complètement locaux, on peut à un autre moment adhérer plus idéologiquement à des débats nationaux. Donc à Marseille, il y a eu un vote aux élections présidentielles très fortement orienté à droite sur Nicolas Sarkozy. C'est pas sûr que ça se produise de la même manière localement. Les élections se font sur les deux aspects, sous les aspects idéaux, sous les aspects pragmatiques à la fois. Et on ne sait pas, à chaque fois, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans la boîte noire de la décision de l'électeur. Hein. Le fait que des élus fassent du clientélisme, que des électeurs soient toujours dans la demande de faveur, ça ne veut pas dire non plus qu'ils auront voté forcément sous la base d'éléments complètement pragmatiques. Hein. Les deux choses peuvent se mélanger et on ne sait pas trop, en fait. Quel est ce type de mélange-là ?
Parmi ces éléments pragmatiques, longtemps, les élections se sont faites au travers du contrôle de réseaux, notamment de réseaux politiques, syndicaux et économiques. Est-ce qu'aujourd'hui, la notion de communauté, voire de communautarisme, apparaît, selon vous, à Marseille et pourrait constituer de nouveaux réseaux ?
Bah, les élus ont besoin de réseaux. Comme je disais tout à l'heure, pour se faire élire, on a besoin de clientèle, on a besoin de relations dans la société civile, on a besoin d'intermédiaires, de notables qui fassent passer la parole, en quelque sorte, et que aussi qui renvoient vers les élus et vers les institutions publiques toute une demande sociale, que ce soit de manière, disons, privée et particulière, comme des demandes de faveur, etc., ou des questions d'aménagement de la ville. Donc il faut, pour être élu, il faut se constituer des réseaux, ça c'est évident. Et c'est évident aussi qu'à Marseille, historiquement, je dirais, dans ma thèse, j'avais pu le voir depuis les années 30, depuis les mairies de Tassot, notamment dans les années 30, et par la suite aussi, et dans l'après-guerre avec Defer, on avait beaucoup misé sur la relation avec des soi-disant communautés politico-ethniques. Mais il faut pas se tromper là-dessus. Ces communautés ethniques et politiques, ce sont plus souvent un construit politique des élus, plus qu'une réalité, une réalité de terrain. Hein, souvent, ce sont les élus qui ont construit, en s'adressant le plus souvent à des notables dits communautaires, pour négocier tout un certain nombre de choses, qui sont construits des relations de cette façon-là. Je dirais que le communautarisme dont on parle aujourd'hui, bon, il faut être un peu méfiant par rapport à ça, parce que d'une part, il y a des élus qui essaient de jouer ce jeu-là, mais de l'autre côté, il y a des électeurs qui, après, dans les urnes, décident un peu comme ils veulent. Hein. Il y a un peu ce jeu des chances assez particulier dans la campagne électorale où les élus se sentent en devoir d'aller voir ces notables communautaires, de faire des réunions avec eux. Probablement, chez les mêmes notables communautaires, chez les mêmes associations, vont passer les élus et les candidats de droite, de gauche, du centre, peut-être de l'extrême droite, non, mais bon. Et ils vont tous être reçus par ces associations. Mais après, moi, ça m'étonnerait que une association entière, une communauté entière, que ce soit les Comoriens, les Arméniens, les Juifs, etc., après, ils puissent voter comme un seul homme pour tel ou tel candidat. Ça, je n'y crois absolument pas.
Des territoires dans la ville, traditionnellement une ville dans laquelle on oppose les quartiers sud et les quartiers nord, peut-être aussi comme dans toutes les grandes villes, un mouvement centrifuge et centripète entre le centre de la ville et ses périphéries, ses banlieues. Est-ce qu'aujourd'hui la géographie marseillaise reflète les clivages politiques et réciproquement, est-ce que les clivages politiques reflètent une répartition différente de la population selon les différentes zones géographiques ?
Ouais. Si on raisonne à une grande échelle, il y a encore ce clivage plus ou moins entre les quartiers nord et les quartiers sud. on a un vote assez, assez important dans les quartiers nord qui s'adresse plutôt vers la gauche. Dans les quartiers sud, on a un vote à droite qui maintenant se sont à peu près stabilisés. Il y a des zones à la marge qui ont changé très fortement. Ce sont, et il ne faut pas les négliger, ce sont les quartiers est. Ce sont le 11e et 12e arrondissement qui, du temps de Gaston Defer, encore dans les années 80, faisait basculer la ville à droite ou à gauche, selon qu'elle votait à droite ou à gauche. Aujourd'hui, ce sont des quartiers, les quartiers est, qui sont durablement conquis à la droite. Donc ça, c'est un changement quand même de long terme assez important. Inversement, le 1er et le 7e arrondissement, qui, après une phase de déferrisme où quand même la gauche, le centre-gauche arrivait à avoir une majorité dans ces quartiers, dans le 1er, 7e, dans le centre-ville, ils ont plutôt basculé à droite. Et aujourd'hui, comme on a vu dans les dernières élections législatives très très serrées entre Menucci et Roata, ce sont des quartiers où on a un changement de population assez important, surtout dans le premier arrondissement, probablement là avec l'arrivée de nouvelles couches intellectuelles, d'artistes qui se sont installés dans le centre-ville, avec des couches populaires qui sont parties et qui amènent peut-être une autre géographie électorale avec un vote de gauche quand même assez différent de celle du passé. Reste aussi le deuxième et troisième arrondissement dont on a parlé tout à l'heure et que peut-être sont en train de changer également.
On dit parfois de Marseille qu'elle n'a pas de banlieue, que c'est une ville qui a tellement peu de centre que finalement centre et périphérie sont dans chaque espace de la ville. Est-ce que c'est vrai selon vous ?
On dit que Marseille n'a pas de banlieue parce que on dit toujours que les banlieues elles sont en dehors de la commune centre. Alors que des quartiers périphériques de Marseille sont au sein de la commune elle-même. Et qu'il y a après une configuration géographique, la cuvette marseillaise, qui fait que quand on sort de Marseille au niveau administratif, on est sorti aussi de Marseille au niveau de la géographie physique de la ville. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a pas d'exclusion sociale. C'est ça la chose qui me semble intéressante. C'est-à-dire que probablement ces quartiers... Il est vrai que ces quartiers périphériques ont aussi leur centre, notamment dans certains quartiers villageois, dits villageois, mais ils peuvent cumuler beaucoup d'handicaps, et notamment à la fois de l'exclusion sociale et de l'éloignement, notamment par rapport au centre-ville. Notamment, les quartiers nord de Marseille restent quand même encore aujourd'hui exclus du réseau de transport en ce qui concerne le tram et en partie aussi en ce qui concerne le métro. Et il y a encore ce système qui me semble très ancien et qui renforce en quelque sorte l'exclusion sociale, qui est un système fondé sur des transports en bus très radiaux, tous vers le centre de Marseille et vers la Canebière à partir de ces quartiers périphériques et qui ne font que faire dépendre encore plus ces quartiers du centre, en ne les reliant jamais entre eux. Il y a très peu de dessertes et de transports en commun entre les quartiers.
Marseille est une ville qui, depuis de nombreux siècles, intègre des gens qui viennent du monde entier, qui viennent de tous les pays et de tous les continents. Est-ce qu'il vous semble que la représentation politique à Marseille reflète cette diversité ethnique et culturelle dans la ville, ou bien est-ce qu'elle n'en est qu'un pâle reflet ?
La politique ne reflète quasiment jamais le corps électoral. En démocratie, dans les moments les plus fastes hein, de la démocratie électorale, c'est-à-dire dans les années 50-60, déjà il y avait un nombre d'ouvriers en politique qui était quand même beaucoup moins important que le nombre d'ouvriers dans la société, si vous voulez. Donc, cette question de la représentation politique, Je sais même pas s'il faut se la poser véritablement. Hein. C'est peut-être une question rhétorique. Hein. Moi, je me souviens du film de Comolli et Sanson, Rêve de France à Marseille, où était présenté presque comme une évidence le fait que, comme il n'y avait pas une représentation au conseil municipal de la diversité, notamment de l'immigration maghrébine, ça devait aller de soi que des listes, notamment les listes du Parti Socialiste à l'époque qui en était question, présentent des candidats en provenance de ces soi-disant communautés, etc. Mais bon, on n'est pas dans quelque chose de nouveau, hein, dans ce type de non-représentation du corps électoral.
Ces nouveaux Marseillais, ces nouveaux arrivants, ils viennent du monde entier, mais aussi parfois tout simplement descendus d'un TGV, peut-être provenant de Paris ou d'autres villes de France. Comment est-ce qu'ils se comportent par rapport à la chose politique marseillaise ? Est-ce qu'ils mettent du temps avant de s'intégrer aux affaires marseillaises, en y étant d'abord un petit peu étranger ? Et puis, ça pose aussi la question de l'abstention à Marseille. Est-ce que le chiffre de l'abstention est en voie de résorption ? On sait que, par exemple, dans les quartiers, beaucoup interviennent pour aller chercher les électeurs qui sont inscrits sur les listes, mais qui ne se prononcent pas.
L'abstention, j'ai pas exactement les données en tête maintenant. Il est plutôt très élevé, beaucoup plus élevé quand même dans les élections cantonales en particulier, ensuite au municipal aussi, et moins quand même dans les élections présidentielles.
Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'on perçoit moins l'enjeu de l'élection cantonale, qui a pourtant une grande importance ? Les conseils généraux sont dotés de fonctions et de missions tout à fait déterminantes. Et on a l'impression que la population perçoit beaucoup moins l'enjeu de cette élection-là par rapport à la municipale.
C'est un échelon qui n'est pas forcément très lisible pour le citoyen. D'abord parce que on vote tous les 3 ans en renouvelant juste la moitié des conseillers généraux, donc c'est des élections qui ont lieu très souvent, tous les 3 ans, et que donc ne sont pas perçues comme très mobilisatrices de la part des électeurs. Donc souvent, les électeurs qui mélangent le niveau régional, le niveau municipal et le niveau cantonal. Ce qui crée un gros problème et une grosse discrasie, parce que d'un côté, vous avez des conseillers généraux qui sont élus avec des abstentions, des niveaux d'abstention très élevés, mais qui sont quand même légitimes pour faire une politique, pour faire des politiques à partir d'institutions qui ont des très gros budgets. C'est le cas du conseil général des Bouches-du-Rhône, mais en général des conseillers généraux, qui ont des très gros budgets, qui décident, notamment en ce qui concerne les politiques sociales, des choses très très importantes. Et là, il y a un déficit démocratique important, quoi.
Peut-être pour conclure, et à propos de ces nouveaux Marseillais, parler des jeunes électeurs. On les a beaucoup dragués à l'occasion des élections présidentielles et législatives. Nombre d'entre eux se sont inscrits sur les listes électorales à cette époque. Est-ce que vous pensez qu'ils vont venir voter pour le scrutin municipal ?
Là, c'est très intéressant. Les nouveaux habitants sont extrêmement courtisés par notamment le pouvoir politique en place, c'est-à-dire par la mairie de Jean-Claude Gaudin. On sait très bien qu'il y a des fêtes qui sont organisées chaque année ou même chaque mois, je crois, pour accueillir les nouveaux arrivants. J'ai su que la pratique se répète dans les mairies d'arrondissement, ce qui est très important et ce qui explique aussi un peu ce volontarisme de la part de la mairie pour faire venir des nouveaux habitants dans le centre-ville et aussi pour essayer de les soigner, manière aussi de se reconstruire un nouvel électorat. Donc ce qui est intéressant, par exemple, et on en a parlé pour les élections législatives dernières, la défaite, par exemple, du candidat Mas, descendant d'une génération, une quatrième génération d'hommes politiques de la même famille dans les quartiers Est, sa défaite s'explique, à mon sens, si on regarde aussi les statistiques de l'INSEE, beaucoup par l'arrivée de nouvelles populations, notamment dans de nouveaux groupes de construction, de nouveaux immeubles construits dans les quartiers Est de la ville. Avec cette nouvelle population, qui, sous les élections à la fois présidentielles et législatives, n'était pas forcément au courant des enjeux locaux, ni trop en lien avec des réseaux, notamment avec des élus locaux et avec les masses, et qui a probablement voté sur d'autres enjeux, sur des enjeux nationaux, avec évidemment aussi une sociologie qui est bien plus à l'aise de la sociologie traditionnelle de l'électorat local et qui donc n'est plus du tout dans une relation de réseau et de demande envers l'élu en fait.
Pour conclure cet entretien, sur les listes électorales marseillaises, 472 étrangers sont inscrits. Ce sont des étrangers issus des pays de l'Union européenne, bien sûr, puisque les autres n'ont pas droit à s'exprimer au cours de ce scrutin. Est-ce que cette question du droit de vote des étrangers aux scrutins locaux est toujours d'actualité aujourd'hui ?
Je constate que dans le débat national et local, cette question a complètement disparu. Alors que dans d'autres pays, comme par exemple en Italie, même des forces de droite, d'anciennes extrêmes droites comme Alliance Nationale en Italie, dans la région des Pouilles, proposent et fera passer très bientôt l'idée de faire voter les étrangers, même en dehors de la communauté de l'Union européenne, aux élections locales. Donc je constate que toute cette question a quasiment et complètement disparu du débat local. Pourtant, moi, je trouve absolument étonnant que ça se passe comme ça, parce que c'est fondamental que pour des questions d'inclusion sociale dans la ville, de citoyenneté, ces citoyens puissent voter, puissent accéder au vote. Si on va plus loin dans le raisonnement, moi-même qui est citoyen de l'Union européenne, italien, et donc qui ne vote pas aux élections présidentielles ni législatives et qui vote uniquement aux élections municipales européennes, j'ai aussi à me demander pourquoi moi, qui réside depuis 10 ans, je serai qu'un citoyen local et non pas un citoyen national et que donc je puisse pas voter pour les élections présidentielles ou législatives. Ça, c'est une espèce de non-dit hein, dans le débat public, selon lequel on serait des citoyens locaux et non pas des citoyens nationaux. On ne sait pas pourquoi.
Merci Cesare Matina.
Merci à vous.
L'ensemble des engagements que je prends pour Marseille.
L'emploi, l'école, la sécurité, la justice, la santé, le développement durable, etc.
Sont réellement comme ça.
Cécile Billon, auditrice de Radio Grenouille, est venue rejoindre la rédaction à l'occasion de ces municipales 2008. Elle s'est penchée sur la question des nouveaux arrivants, nouveaux électeurs, et nous propose un entretien avec les représentants d'une association d'accueil des nouveaux Marseillais, Marseille Accueil.
La question des nouveaux électeurs à Marseille nous conduit à nous interroger sur la typologie des nouveaux arrivants dans la ville, leur profil, les motifs principaux de leur installation, les évolutions majeures de ce groupe social sur les 10 dernières années à Marseille. Il est intéressant par ailleurs d'essayer de comprendre à quels enjeux ils sont confrontés, quel est le regard éventuellement spécifique qu'ils portent sur la vie politique, publique et municipale. Plusieurs associations à Marseille se sont constituées autour de la question d'accueil des nouveaux arrivants. Marseille Accueil, qui existe depuis 40 ans, également AVF, Association des villes françaises, et récemment encore Peuplade. Leurs projets associatifs se déclinent principalement autour d'activités de loisirs et d'espaces de convivialité. Si effectivement le lien social que peuvent proposer ces associations est déterminant pour favoriser l'accueil et donc l'intégration des nouveaux habitants, la composition sociologique de leurs adhérents, les activités que développent ces associations, ne nous permet pas aujourd'hui de nous fournir des éléments précis et objectifs sur la problématique posée, les aspirations majeures des nouveaux arrivants, les difficultés d'intégration qui éventuellement se posent, l'image qu'ils en traduisent étant pour le moins partielle. Donc nous allons écouter à ce sujet Madame Anne Kilikini, présidente de l'association Marseille Accueil, et Monsieur Jean-Michel Delattre, secrétaire général de cette même association. Alors, pouvez-vous nous donner quelques éléments majeurs qui caractérisent les nouveaux arrivants aujourd'hui sur Marseille ?
Eh bien, les nouveaux arrivants à Marseille viennent évidemment pour gagner leur vie et puis aussi pour la qualité de vie qu'il y a à Marseille avec le soleil, l'évolution de la ville dans tous les domaines comme la culture, le tourisme.
Quels sont principalement leurs profils sociologiques, socio-économiques? S'agit-il de cadres, de personnes qui viennent pour des raisons professionnelles, de personnes qui s'installent davantage pour une retraite? Est-ce que vous avez des éléments là-dessus au regard de l'activité de votre association?
Disons que nous avons un mélange. Marseille, c'est 2600 ans d'histoire et on retrouve justement ces 2600 ans d'histoire. On a aussi bien des cadres qui sont mutés, on a des jeunes cadres, on va dire jeunes cadres dynamiques, la quarantaine, mais on a aussi des personnes qui ont professionnellement quitté Marseille et reviennent vivre à Marseille pour la qualité de vie qu'on y trouve. Disons qu'on va, trouver avec ces nouvelles entreprises qui se créent, je dirais on a une clientèle d'arrivée sur Marseille dans une tranche d'âge entre 30 et 40 ans.
Quels sont les besoins qu'expriment ces nouveaux arrivants? Est-ce qu'ils s'impliquent différemment aujourd'hui dans la ville?
Moi, je peux dire qu'il y a eu une évolution. J'ai remarqué que les nouveaux arrivants, il y a quelques années, arrivaient, mais malheureux à Marseille. Et maintenant, l'image de Marseille a changé et ils sont heureux d'être là. Marseille plaît et plaît de plus en plus.
Disons que cette clientèle vient pour travailler, ça c'est clair. Donc c'est le monde du business. Mais c'est aussi la recherche d'une qualité de vie que l'on trouve à Marseille et que l'on ne trouve pas à Paris, puisque souvent ce sont des personnes qui viennent de la région parisienne. Paris, c'est une vie infernale. Et par contre, Marseille, c'est un fonctionnement beaucoup plus détendu et c'est aussi ce qu'ils recherchent. Déjà, la qualité de vie, ça c'est clair. Il y a surtout la qualité de vie. Après, sur le plan économique, il y a un dynamisme. Il y a un dynamisme qu'on retrouve. Et aujourd'hui, pour un cadre, il aura des possibilités d'évolution qu'il va trouver dans les entreprises ici sur Marseille, qu'il ne trouvera peut-être pas sur Paris. Donc c'est une porte ouverte sur la culture. Et donc, pour certains, c'est aussi un tremplin peut-être pour partir à l'international.
Marseille est face à plusieurs enjeux de développement, le logement, l'habitat, la culture, on l'a évoqué. Est-ce qu'il y a, selon vous, un enjeu de développement qui préoccupe plus particulièrement les nouveaux arrivants?
Oui, c'est vrai que c'est difficile de se loger à Marseille. Ils aimeraient aussi que Marseille soit une ville un peu plus propre.
En fait, ce qu'ils cherchent, c'est les entreprises, déjà, l'implantation d'entreprises. Sur le logement, je dirais que le logement, on a calé dans toutes les rues, dans tous les quartiers de Marseille, ça se construit de partout, donc le logement, il y a. Après, je dirais, la problématique, ce sera les écoles. Donc qu'il y ait des écoles, des crèches pour faire garder les enfants. Voilà ce qu'ils recherchent quand ils arrivent en priorité. Les écoles, les crèches, le logement, on trouve. Puisque aujourd'hui, je veux dire, quand on regarde Marseille, c'est impressionnant. Les constructions, les chantiers qu'il y a. Et quelque part, c'est très bien que ça évolue dans ce sens.
La mairie. La mairie.
Moi, je pense que...
Si pour les représentants de l'association Marseille Accueil, tout va bien dans la ville pour les militaires, les diplomates et les jeunes cadres dynamiques, on va maintenant aller à la rencontre de Walid Tebaï, qui représente l'association Agir pour la citoyenneté, APC, et qui a une vision de la population marseillaise et de ses électeurs sensiblement différente.
Walid Tebaï, bonjour.
Bonjour.
Tu t'es considérablement mobilisé pour lutter contre l'abstention, et notamment dans les quartiers de Marseille, plus particulièrement encore dans les quartiers nord où tu habites et où tu travailles. Quelle était ta motivation pour effectuer ce travail de terrain?
Tout simplement, ma motivation, c'est que je suis né dans ces quartiers et que j'ai vu ces quartiers se dégrader d'année en année. Donc, issu des quartiers populaires comme la Busserine, dans le 14e à Marseille. Aujourd'hui, issu de la diversité. Donc, un jeune qui a fait ses preuves à l'école, malheureusement, donc avec tout ce que ça comporte, les avantages et les inconvénients, j'ai décidé aujourd'hui, à l'âge de 30 ans et père de deux enfants, de prendre le compas à bras le corps. J'ai décidé d'aller à la conquête de ces jeunes Marseillais et Marseillaises des quartiers difficiles pour leur dire que s'ils veulent être considérés et être pris en compte, il fallait commencer par le commencement, c'est-à-dire aller s'inscrire sur les listes électorales.
L'abstention, effectivement, dans les quartiers, un problème. De nombreuses personnes sont inscrites sur les listes électorales, mais pour autant ne vont pas forcément participer au scrutin. Est-ce que tu as une idée du pourcentage d'abstention dans ces quartiers, et puis peut-être des causes de cette abstention?
Tout d'abord, il y a eu 50% d'abstention aux dernières législatives. Donc il y a eu une forte mobilisation pour les présidentielles. Il faut savoir pourquoi il y a eu une forte mobilisation pour les présidentielles. À savoir que monsieur le président aujourd'hui était ministre de l'Intérieur à l'époque. Donc avec, je le rappelle, novembre 2005 quand même. Donc j'espère qu'on n'est pas tombé dans les oubliettes, les émeutes. Donc on a connu une France dramatique. Et aujourd'hui, ces jeunes et ces moins jeunes sont partis s'inscrire pour dire non à la loi Sarkozy. La majorité n'a pas voté, mais je pense très sincèrement la cause pour laquelle les jeunes et les moins jeunes des quartiers difficiles sont partis s'inscrire sur les listes électorales, c'est parce qu'ils ont vu que M. Sarkozy allait faire un carnage.
Tu l'évoquais à l'instant, de nombreux citoyens sont venus s'inscrire sur les listes électorales à l'occasion de l'élection présidentielle parce qu'ils pensaient que l'enjeu était très fort. Est-ce que ceux qui se sont inscrits à ce moment-là sur les listes électorales vont voter aujourd'hui ou dans quelques jours pour les municipales? Est-ce que l'enjeu local en termes de politique est aussi important à leurs yeux que l'enjeu national?
Là, je rebondis sur cette question qui est fondamentale. Les Marseillais et les Marseillaises, vu la politique qui est menée aujourd'hui sur le plan national, donc sont marqués et ont décidé, par cette campagne que j'ai menée jusqu'au 31 décembre 2007, quand je disais aux gens « Allez vous inscrire sur les listes électorales, il faut que demain ça change. Il faudrait aujourd'hui aller s'inscrire, mais aller voter. » Dire qu'aujourd'hui, Marseille, elle est aux Marseillais et aux Marseillaises. Donc si demain, vous voulez un vrai changement, on peut le voir sur le plan national. Si vous voulez du changement, allez voter pour les municipales pour qu'il y ait du changement au plan local.
Concrètement, Walid, comment tu pratiques pour aller rencontrer ces habitants, ces électeurs, pour les convaincre?
Déjà, pour commencer, il faut savoir que sur le terrain, je me présente apolitique. Qu'on soit bien d'accord, parce qu'il faut respecter les électeurs, qu'on soit de droite ou de gauche. Aujourd'hui, dans les quartiers difficiles, vous le savez très bien, la majorité sont des gens de gauche. Donc moi, aller au contact de ces citoyens et de ces citoyennes, je leur dis tout simplement, est-ce que vous, aujourd'hui, votre mode de vie vous convient? Bien naturellement, ils me disent, Marseille a changé. Moi, dans les années 70, donc je suis né en 79, dans les années 80, j'ai côtoyé la diversité. J'ai côtoyé dans des quartiers, on va dire, difficiles, certains respects. Aujourd'hui, 2008, 20 ans après, ce sont devenus des ghettos, insalubres, insécures, taux de chômage trop élevé. Et donc, quand je leur tiens ce discours, qu'ils font machine arrière dans leur tête, ils disaient, effectivement, Marseille a changé. On a honte d'être Marseillais. Moi, aujourd'hui, j'ai honte d'être Marseillais. J'ai honte que Marseille, avec sa diversité, est mal exploitée. Aujourd'hui, Marseille est composée d'hommes et de femmes diverses. Et on les utilise très mal. C'est comme un club de football qui a les meilleurs joueurs et qui est dernier au classement. Voilà aujourd'hui le Marseille que je vois.
Parmi ces électeurs, ces citoyens que tu veux convaincre de participer à la vie politique, j'imagine qu'il y a un nombre de jeunes, tu es toi-même jeune. Et est-ce que tu penses qu'il y a une manière particulière de s'adresser à eux? Est-ce que la politique a un peu vieilli au cours de ces dernières années, qu'il faut renouveler son langage?
Je vais vous dire la réalité. Et je ne vais pas vous mentir. Aujourd'hui, les jeunes ont compris que ces politiques n'étaient pas issues de leur quartier. Ok ? Qu'on soit bien d'accord. Ils ne vivent pas dans ces quartiers. Ils habitent de l'autre côté de Marseille, dans les beaux quartiers, dans des bords de mer. Ok ? Et celui qui connaît les quartiers, c'est celui qui y vit. Or, ces gens n'y vivent pas. Donc, comment voulez-vous comprendre, vous, des gens, les côtoyer, dire que vous allez les représenter alors que vous vivez même pas à leur côté? Arrêtons de nous raconter des conneries. Si on veut du vrai changement, il faut être dans le monde réel. Il faut pas s'imaginer. Donc, j'entends toujours dire les politiques, moi, je suis né dans les années 60 et 70 dans ces quartiers. Oui, mais des années 60 et 70, Marseille, et dans les années 2008, le Marseille Nord, c'est pas pareil, les amis, qu'on se raconte pas des conneries, c'est pas pareil. Donc c'est totalement différent. Maintenant, c'est des ghettos. Ils le savent, ces jeunes. Ils le savent qu'ils racontent des conneries, ces politiques. Mais aujourd'hui, ils ont pris conscience de dire on va faire avec et pas sans nous, tout simplement.
Est-ce que pour être encore plus direct et concret, est-ce que tu penses qu'il faudrait ce que les Américains appellent « affirmative action », ce qu'on appelle ici « discrimination positive », c'est-à-dire volontairement faire en sorte que sur les listes électorales soit beaucoup mieux visible un certain nombre de composantes de la population française, et notamment, pour être très clair, une composante de la population française qui est d'origine étrangère, peut-être issue d'émigration?
Pour vous répondre très concrètement, donc je suis aujourd'hui à peu près ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, c'est bien ça. Quand je vois Barack Obama à la présidentielle et quand je vois en France que un député a du mal à siéger, je me dis qu'on est très très loin en politique en France. Mais aujourd'hui, c'est pas nous qui gouvernons. On gouvernera pas d'ici une décennie, des siècles, mais je suis ambitieux. Je me dis que j'espère voir donc dans les années à venir, les gens issus de la diversité. On a intégré, je dirais, les gens issus de la diversité. Mais moi, j'ai une question à poser et elle est très importante. Est-ce qu'on place les meilleurs? Ça, c'est important pour moi. Moi, je ne veux pas être représenté par un gars qui s'appelle Mohamed ou Karim ou Abdallah ou Youssef et qui n'est pas compétent. Ça ne m'intéresse pas. Issus des quartiers difficiles, oui, mais les meilleurs. Donc, de prendre un gars et de le mettre sur les listes parce que ça fait bien, moi, ça ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, le problème qui se passe pour le monde associatif, c'est qu'ils ne sont pas trop libres, je dirais. Donc, ils doivent être dans des endroits et pas dans d'autres. Ils doivent dire, certaines phrases qu'il ne faut pas qu'ils déplaisent à certains donc, élus. C'est très compliqué. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Aujourd'hui, vous le savez très bien, 820 000, je pense, habitants à Marseille, 250 issus de la diversité. Je pense qu'un Marseillais sur quatre est issu de la diversité. Je pense que le Marseille de demain ne pourra être représenté par la diversité.
Je m'y attache de toutes mes forces.
Vous écoutiez Walid Tebaï, acteur de terrain dans les quartiers nord de Marseille pour l'association APC. Quelques bouquins pour prolonger cette réflexion autour de qui sont les électeurs à Marseille. Je vous recommande la lecture de l'ouvrage de Christophe Traini, Le vote en PACA, c'est chez Cartala. De Fournier et Mazzella, Marseille, entre ville et port, Les destins de la rue de la République. Prochainement, de Cesare Matina, que vous avez entendu en début d'émission, Le gouvernement urbain à Marseille. Et puis sur Internet, la revue en ligne de l'AMARES, sciences sociales et humaines, en PACA, www.amares.org. Et enfin, tous les chiffres et statistiques sur la population marseillaise sont sur le site de l'INSEE PACA. Prochaine émission dans cette thématique électorale, le 3 mars à 18h, des communautés fabriquées, une émission proposée par Anouk Bakar.
Les municipales 2008. La mairie. Voilà.